Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de violence et crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Et le lendemain à 15h, Gilbert attend M. de Janju dans le salon, le grand salon. On frappe à la porte. Entrez, entre le domestique. M. de Janju. Et apparaît M. de Janju. Et tout ému de revoir son beau Gilbert, qui est toujours aussi bien. Gilbert va vers lui. Et lui dit, vous avez demandé à me voir, monsieur. Monsieur de Janju, un peu triste qu'on le traite de cette façon, lui dit, oui, monsieur, j'aimerais vous parler de choses importantes. Gilbert lui dit, allons nous asseoir. Et il le mène vers un fauteuil. Asseyez-vous. Il s'assoit. Et lui s'assoit en face de lui. Je vous écoute. Je, surpris de ce côté cérémonieux, lui dit, comment allez-vous, Gilbert ? Très bien, toujours la même chose. Les études marchent bien? Oui, merci. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Du Henry James, c'est bien. Vous fréquentez des gens de connaissances, amis? Gilbert lui dit. Oui, un peu, mais j'égare le temps. Et vous, monsieur de Janju? Il lui répond. Moi, je suis assez pris. J'ai un gros problème à résoudre. Le Vatican m'a donné une mission spéciale et j'ai de gros problèmes à exécuter. Gilbert lui demande, je croyais que vous n'aimiez pas ce pape pro-américain. Oui, c'est vrai, mais il m'a convoqué et m'a demandé s'il n'était pas, il m'a démontré qu'il n'était pas pro-américain. Dit qu'il aimait être indépendant. Et la mission qu'il m'a donnée le prouve. Gilbert lui dit, c'est peut-être un piège. Je ne pense pas. Et puis, un vieux monsieur comme moi, à quoi cela servirait-il? Je ne suis plus rien. Gilbert lui dit, ça c'est vous qui le dites. Car, en tout cas, ma mère pense que vous avez encore quelque chose. La preuve, vous êtes là. Monsieur Janju lui dit, oui, votre mère, voilà. Elle m'a parlé des différends que vous aviez avec votre père. Gilbert lui dit, Mon père est un homme primaire qui ne voit que l'utilité des choses. Jean-Jules lui dit, vous ne devez pas juger votre père trop durement. C'est un homme de grand mérite et qui s'est fait tout seul. Il en est fier, c'est normal, de tout qu'il en a bavé. Gilbert lui dit, c'est du passé, ne pas toujours voir les choses comme avant. Il dit, oui, mais il faut voir aussi l'avant, parce qu'il se demande qui va lui succéder. Et comme il n'a qu'un fils, et que ce fils c'est vous, il se fait du souci, parce que vous n'avez pas les mêmes idées que lui, et que vous ne voyez pas la vie comme lui. Vous pouvez le comprendre, ça. Votre père se fait du souci pour vous, et parce qu'il... pour ce qu'il laissera. Et si vous ne prenez pas la suite, qui va lui succéder? Gilbert ne lui dit rien. Jean-Jules continue. Je pense que... il pense que vous vivez sur le dos de la société en la dénigrant. Si vous mettez à son idée, vous verrez qu'il ne dit pas faux. Écoutez-moi bien. Dans la vie d'un homme, il y a en réalité deux vies. Celle du travail et celle du loisir. Le loisir, c'est faire ce que l'on a envie de faire, etc. Et le travail, c'est faire ce dont la société et vous-même a besoin. Si chacun faisait ce qu'il voulait, qui ferait les ordinateurs, les chenilles, les voitures, qui ramasserait les poubelles, qui nettoierait les WC, qui cultiverait, élèverait, fabriquait l'utile. 90% des métiers sont pas intéressants, mais si personne ne les faisait, la société et soi-même seraient très embêtés. Car ces professions sales, ennuyeuses, fatigantes, etc., sont très utiles et vitales. Laver un malade pleine de merde, c'est plus utile que des personnes qui passent son temps à lire ou écouter de la musique. Pour la société, c'est mieux une infirmière. Pour les malades. Mais l'on peut, à notre époque, rectifier le tir en ayant des loisirs intéressants et qui ennoblissent soi-même et les autres. On est plus heureux de jouir, de jouer de la clarinette après avoir accompli son devoir de travail, sa tâche pour la société, alors faire un travail utile. Une personne qui passe son temps à écrire dans son coin sans rien faire d'autre ne connaît pas la vie et n'a rien à dire ou sur ce qu'il a à dire, qui est sans importance, sans intérêt, c'est hors du monde. C'est bon pour la création d'avoir deux vies. Et vous, on ne vous demande pas un travail salissant ou pénible ou dégoûtant. Et on vous demande, c'est d'aider votre père dans ses besoins. Ce n'est pas la mort. Vous avez la chance d'aider la société par un petit travail, pas pénible et bien payé. Chose rare. Beaucoup de temps, beaucoup de gens n'ont pas votre chance. Alors, pourquoi refuser de faire votre devoir vis-à-vis de tous, de la société et de votre famille. Après, vous aurez suffisamment de temps pour faire ce dont vous avez besoin, ce dont vous aimez. Et vous aurez des idées de sujets à l'appel pour vous. Alors, vous allez rencontrer des gens de toutes sortes. Qu'en pensez-vous ? Gilbert réfléchit et lui dit : Je crois que vous avez raison. J'ai agi un peu comme un égoïste. Mon père a raison. Mais je veux c'est finir mes études. Après, je verrai. Jean-Jules lui dit : Je crois que votre père ne dira pas non. Je suis heureux de vous revoir. Vous avez bien 20 ans. Vous ? Vous ? Pourquoi ? Comme ça ? Vous êtes né à Paris ? Oui, je suis né, par hasard, à la clinique que mon père a rachetée. Tiens, quel hasard ! Et vous n'êtes jamais retourné à cette clinique ? Si, une fois, pour mon accident, on a dit à mon père que je serais mieux soigné. J'étais très bien soigné, une chambre seule et tout. Si Jean-Jules réfléchit et lui demande : Depuis votre naissance, la vie chez vos parents n'a-t-elle pas changé ? Si Jean-Jules réfléchit et lui dit : Oui, mon père dit souvent que ma naissance lui a porté chance, qu'il s'est mis à recevoir des tant de commandes. Que Jean-Jules lui dit : Vous voyez que vous portez chance à votre famille et qu'il ne faut surtout pas chercher à la quitter. Gilbert lui dit : Mais je ne veux pas m'en aller, moi. C'est mon père qui le voulait. Que Jean-Jules lui demande : N'a jamais cherché à vous faire des propositions, à vous prendre, je sais pas moi, des gens, des sectes, des choses comme ça. Non, je ne vois pas. Mais pourquoi toutes ces questions ? Vous avez appris des choses sur moi ? Ou c'est ma mère qui pense à ces choses ? Que Jean-Jules lui dit : Non. Mais comme ça, vous êtes un peu intellectuel. Vous auriez pu, on aurait pu vous faire entrer dans ces maisons spécialisées. Mais ce n'est rien. Je suis un vieil homme bizarre. Ne faites pas attention à moi. Il faut que je me sauve. J'ai une course à faire et je dois repartir pour Lyon. J'ai une chose très importante à y faire. Mais je tiens à ce que nous vous revoyons. Gilbert lui dit : Bien sûr, quand vous voudrez, mais je suis très pris. Bien sûr. Que Jean-Jules se lève, Gilbert aussi, et il leur accompagne jusqu'à la sortie de la maison. Ils sortent du salon. Descendent jusqu'au rez-de-chaussée. Au revoir Gilbert, et merci de m'avoir reçu. Au revoir Monsieur Jean-Jules, et bon voyage. Et Monsieur Jean-Jules le quitte. Gilbert se dit : Toujours aussi rêveur. Moi dans une secte, bon, j'ai parlé à mon père. Lorsque son père revient de son travail, il retrouve Gilbert dans le hall. Bonjour père, bonjour. Bien, j'aimerais vous parler. Bien, Allons dans mon bureau. Père donne son par-dessus au domestique et il monte au bureau. Devant le bureau et le père se met à son bureau. Et bien voilà père, j'ai bien réfléchi sur ce que nous avons discuté la dernière fois. Je dois avouer, c'est que je me suis comporté un peu comme un imbécile et je vous en demande pardon. Dis, j'en suis très heureux. Gilbert continue. Voilà, je vous propose une chose. J'accepte de travailler avec vous, mais seulement après avoir fini mes études, parce que j'y tiens beaucoup. Maurice lui dit. Ça fait très plaisir que tu aies changé d'avis. Je ne veux pas chipoter pour quelques années, de plus ou de moins. Tu finiras tes études, j'accepte de te les payer. D'ailleurs, ta mère a raison. Un patron qui a une bonne connaissance générale, c'est un plus pour lui et pour l'entreprise. Ça me fait plaisir. Ta place sera prête. Mais ne tarde pas trop. Je ne suis pas immortel. Gilbert lui dit. Et ira très vite. Le père lui dit. Très bien. Pour te remercier, je te fais un débit de 50 000 francs. Merci, père. Le soir, lorsqu'il est seul avec sa femme au salon, lui dit « Avec Gilbert, tout est arrangé. Il accepte. Il me demande seulement un petit délai pour finir ses études. J'ai dit oui, bien entendu. » Sa femme lui dit « S'il acceptait, c'est grâce à monsieur de Jean-Ju. Il faudra le remercier, lui faire un petit cadeau. Tu sais qu'il s'est déplacé exprès pour venir nous voir. » Maurice lui dit Il a un faible pour Gilbert. Il lui dit, tu es méchant de parler comme ça. Et alors, notre fils n'est pas assez beau et gentil pour qu'on n'ait pas un faible pour lui. La mère hausse ses épaules et lui dit, parlons sérieusement. Nous devons une sacrée chandelle. Alors, j'ai pensé à une vierge à l'enfant de la Renaissance italienne peinte sur bois. J'ai vu ça au faubourg Saint-Honoré. Marie lui dit, achète-le lui, mais combien? Elle lui dit, pour nous, une bagatelle. Il lui dit, pour les autres, une petite fortune. Bien, vas-y. Merci. De Jean-Jules
dans le train qui le ramène à Lyon, réfléchit. Il se dit que Gilbert doit être celui qui a l'ADN de Dieu. Il y a des tas de choses qui concordent. La date de sa naissance, la clinique qui appartient à celui qui avait l'ADN de Dieu, le père qui devient soudain riche, et pour finir, c'est une de ses connaissances. 90 chances pour sur 100 pour que ce soit lui. Je vais réfléchir avant d'en parler au pape. Je veux être sûr du pape, parce que s'il est pro-américain, il risque de faire enlever Gilbert pour donner aux Américains qui vont mettre dans un coffre-fort. Paris se reconstruire et pour reconstruire il faut démolir. En démolissant des vieilles maisons, on trouve des fois dans les sous-sols de ces maisons des choses étranges. Enterrés dans les caves, des cadavres mis en vrac, des ossements, des cadavres enterrés dans de la chaux, des charniers. Dès que des ouvriers trouvent ce genre de choses, ils appellent la police, qui ne trouve rien et décide de mettre les ossements dans des fosses communes hors de la ville. On trouve de nombreux charniers. La police ne cherche plus. On trouve aussi dans les caves des cellules, comme des cellules de moines, des trappes qui vont au sous-sol. On retrouve aussi des papiers étranges, codés, ou avec des bouts de mots, de noms, d'adresses, dans les caves aussi. La police s'empare des papiers, elle fait le rapprochement entre le charnier, les cellules, les passages souterrains et les papiers. Ils se disent que c'est sûrement une secte qui sévit dans les sous-sols de Paris. Mais qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle veut? Où est-elle? Pas de réponse pour le moment.
Thank you.
petit garçon qui a récupéré le carnet noir des sept soleils et mis dans sa tente de nuit. Quelque temps plus tard, la famille et lui ont été expulsés pour cause de démolition et la famille a été mise hors de la ville dans un camp pour gens inadaptés à la vie moderne. Là, ils vivoteront et mourront. Pas laissé prendre leurs meubles. Le mobilier, avant démolition, a été évacué. Tant d'années, le tiroir de la tente de nuit s'est ouvert et le carnet est tombé à terre. Le policier l'a ramassé. Il l'a ouvert et mis dans sa poche. Une fois arrivé au commissariat, il l'a mis dans son coffre. Le président de la République, Marc, invite Maurice à l'Élysée dans son bureau.
Il entre. Venez vous asseoir, monsieur Maurice. Franc blanc. Le président.
Dit, voilà, je vous ai fait venir parce que j'ai un service à vous demander. Je vous écoute, monsieur le président. Le président lui dit, voilà, j'ai pensé que, puisque vous êtes le groupe qui avait les technologies les plus performantes pour stocker les mémoires de toutes sortes, Pourquoi ne pas de stockez-vous pas toutes nos mémoires, les livres, disques, films, tout quoi. Tout notre savoir mondial, le mettre sur CD. Maurice lui dit, je vous remercie, monsieur le président, de votre proposition. Mais le CD, comme tous les supports, ont une vie très courte. Le CD, 15 ans. Le DVD, 15 ans. Le CDR, 15 ans. Les cassettes audio et vidéo, 20 ans. Disquettes aussi. Les films noirs et blancs, 100 ans. Couleur, 50 ans. Le papier journal, 100 ans. Papier couleur photo, 30 ans. Comme vous voyez, ce qui se conserve le plus, c'est le papier. Et si nous mettons tout en CD, la moyenne de vie sera en gros entre 15 et 20 ans. Il ne faut pas supprimer la mémoire papier, car ce serait très ennuyeux. Oui, mais le CD de verre éternel, Maurice lui dit, pour le moment, on disait aussi avant que le CD était éternel et qu'il ne sautait pas. Ça s'est avéré faux. Le président lui dit, si c'est pas nous qui stockions la mémoire mondiale, ce sera l'Amérique. Alors, Maurice lui dit, bien, j'ai compris, tchat-tchat, mais vous m'indemnisez mes impôts pour 10 ans. Accepté. Et Maurice convoque ses coéquipiers. Il lance une équipe de recherche sur le CD de verre. Ouvre une usine de production de ce CD qu'il ne veut pas commercialiser pour le grand public, mais que pour le groupe Franc Blanc, pour éviter les copies. Puis, une fois que le CD est prêt, on lance la production dans une usine ultramoderne de 2000 personnes. On fabrique tout, même le verre. L'usine est à côté d'une sablière et des bactéries sont programmées pour produire du sable. Ensuite, à côté se trouve côté de l'usine qui se trouve en banlieue parisienne, l'on crée une usine de stockage des informations sur CD de verre. Un immense immeuble de 75 étages, tout blanc, prêt pour recevoir des CD, pour pouvoir visionner des CD avec des ordinateurs. Déchiffrage de films, livres, voix, etc., etc. Des traductions aussi, car les CD auront plusieurs versions de langue. Ces versions, de plusieurs versions de langue pour les films, pour les émissions audio et pour les livres. On enregistre, grave, ce CD de verre, tout le savoir français du monde entier. Et les nouveaux livres ou chansons ou films passent directement par eux. Il est obligatoire de déposer son œuvre dans la grande médiathèque mondiale. Tous ces CD sont enregistrés et c'est des CD de toutes sortes. Et qui sont la culture du monde. Car le monde entier doit donner au stock de la médiathèque mondiale. C'est l'ONU qui l'a voulu et qui a sélectionné la médiathèque mondiale pour le patrimoine mondial. Et tous les pays le font, même l'Amérique. Donc tous les CD sont stockés, ils peuvent être lus sur place ou par internet, mais en payant. Mais on n'a pas le droit de les emprunter pour éviter le vol ou le piratage. De toute façon, on a mis une puce spéciale qui empêche le piratage. Quand on veut faire une copie, la puce tue la mémoire informatique de l'ordinateur qui a voulu copier et l'ordinateur est foutu. Lieu de fabrication et de stockage des CD de verre est lieu gardé. Police, chien, hélicoptère, zone secrète. Le public y est interdit, sauf accompagné. Les jours passent. La dame en noir, la nuit, est dans le bureau du vieil homme de la vieille maison au fond de la cour. Il lui dit :
Tu le m'as accéléré les choses. Nous avons beaucoup à faire.
Elle lui dit, je le sais.
Nous avons beaucoup de retard, surtout pour la sécurité, pour la robotisation. Et puis il faudra répertorier les chimères et les mutants qui se promènent dans la nature. Ils peuvent devenir dangereux, détruire ces anciens et en mettre d'autres qui seront cette fois sous nos ordres. Il faut aussi se sélectionner la population et détruire ceux qui peuvent suivre. C'est un très gros chantier et qui doit être fait le plus vite possible. Nous ne pourrons pas être bloqués à cause des gens qui ne peuvent nous suivre. Donc, avant de continuer, il faut enlever la mauvaise herbe qui sont les humains qui ne peuvent suivre et les mutants et les chimères qu'on ne peut guider. Voilà la chose principale à faire avant de continuer votre avancée. Elle lui dit,
bien, nous allons lancer ce programme.
Je ne sais où.
Sortes de vieux immeubles. Ils sont maigres, blancs, très blancs. Visages très osseux. les yeux fixes, lèvres blanches, cheveux collants, longs et pas très épais. Ils sont habillés de vieux vêtements sales, blanchis de poussière, déchirés. De vieux costumes de cérémonie en lambeaux. Leurs mains sont osseuses, longues, avec de grandes ongles noircies. Ils marchent d'une façon lente et droite, le regard fixe. Lorsqu'on rencontre ces gens, on en a le frisson. Ce n'est pas qu'ils soient vraiment laids, mais il se dégage d'eux quelque chose de tellement froid que ça vous fait quelque chose dans le dos. Vous n'avez pas envie de leur parler. Et si vous leur parlez, ne vous répondent pas. Les passants qui les voient dans la rue s'écartent et se sauvent. Même les tueurs des nuits en ont peur. Les animaux, les chiens, chats, rats, etc. se retirent tête et queue basse. Les gens qui sont dans les rues les voient de leurs fenêtres. La plupart du temps, car les gens honnêtes ne sortent pas. Ils disent que ce sont comme des zombies. La boulangère, une grosse dame blonde en blouse blanche, et la cliente, une vieille dame maigre, cheveux blancs, manteau noir. La vieille dit : « De ce qu'on en a tué ?» La boulangère demande : « Mais d'où viennent-ils ? » La vieille lui dit : « Ils sortent des maisons, peut-être des morts, que l'on a tués et pas enterrés. Mais qu'est-ce que l'on peut faire ?» La vieille lui dit, il faut les prendre et les enterrer. Et s'ils ne sont pas des fantômes, mais de pauvres bougres. La vieille lui dit, en pire, pour savoir si on n'enterre pas quelqu'un de vivant, il faut lui enfoncer un pieu dans la poitrine. Comme ça, on est sûr. Allez, donnez-moi ma baguette. Bien, Madame Martin. Elle la serre et Madame Martin sort du magasin. La journée, on ne voit pas ces gens, on ne sait pas qui, ce qu'ils deviennent, et ni où ils sont allés. Personne ne cherche à savoir qui ils sont, parce que tout le monde en a peur. Un homme, grand, mince, dans les 30 ans, long, sympathique, habillé d'un manteau gris. Il sort de chez des amis où il a passé la soirée. Il est sorti d'un petit immeuble bourgeois du 14e arrondissement. La rue est déserte, il fait nuit. L'homme marche d'un bon pas parce qu'il ne fait pas très chaud. Puis, marcher la nuit comme ça, il en a pour un quart d'heure de marche pour rentrer chez lui. Il n'a pas de voiture, ça coûte trop cher. En passant de vieil immeuble,
c'est ici.
J'ai entendu un bruit. C'est la porte de l'allée qui s'est ouverte. En est sorti un homme, très grand, maigre, cheveux châtains. Long, le visage de l'homme est blanc et osseux, il a les yeux fixes et habillé d'une redingote noire avec de gros bocquins noirs. L'homme frappe un peu le jeune homme, mais on voit tellement de choses à notre époque. Les deux hommes marchent l'un côté de l'autre. Celui qui vient de sortir de l'allée ne regarde pas le jeune homme. Le jeune homme lui dit, nuit encore froide. L'homme ne répond pas. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de violence et crépuscule, L'élu. Production, mise en scène. Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu Lionel Morzetti.